love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La lumière, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. pièce est grande, claire avec ses deux fenêtres, et plutôt en longueur. Une table, quatre chaises, dans un coin un divan en bois et tissu marron, une bibliothèque en contreplaqué, dans un coin un lit à une place avec une table de nuit. Les meubles sont sans style années 80, grande surface. Dans la pièce, un jeune homme de taille moyenne, mince, les cheveux châtains qui ondulent, un visage gamin mais déterminé, d'immenses yeux bleus, un nez en trompette et des lèvres suceuses, est habillé d'un pantalon gris et d'une chemise blanche. Il va vers la chaîne audio qui se trouve à terre contre le mur. Pour mettre en route le lecteur de cassette. La pièce est envahie du Boléro de Ravel. Puis, il va et vient dans la pièce pour ranger des choses qui traînent. Vêtements, papiers, livres. Veut que tout soit propre. Met en pile sur la table papier, cahier pour y mettre dans un cartable noir. Ses gestes sont précis. Il a le regard froid. Une fois le cartable rempli, qu'il laisse sur une chaise, il va au buffet prendre une bouteille de cognac et un verre. Il se remplit un verre. Puis remet la bouteille et le verre dans le buffet. Et va s'allonger sur le lit. Garde droit devant lui, soupire, puis se soulève, prend un petit canif sur la table de nuit. Là, il s'entaille en fermant les yeux, de peur d'avoir mal. Il n'a presque rien senti. Des veines du poignet sortent un filet de sang. Il le regarde couler quelques secondes, pose le canif sur la table de nuit. Là, il s'allonge en mettant à l'extérieur les deux bras. Il ne sent rien, ni physiquement ni moralement. Il attend sans bouger. Regarde droit devant lui. Droit devant lui. Au bout d'un moment, il y a des fourmis au bras. puis ils se sont légers, légers. Léger. Des bourdonnements aux oreilles et chaud. Il a chaud à la nuque, les fourmis sur tout son corps, puis il a froid. Il aimerait bouger, mais il sait que c'est impossible. Plus de force. Bourdonnement d'oreilles, sa vue se trouble. Il sent plus son corps. Et le trou noir. La musique envahit la pièce, de plus en plus forte, de plus en plus tendue. On n'entend des pas dans l'allée. On a sonné, puis des pas. Il y a quelqu'un ? Des pas dans le couloir. Frappe à la porte de la pièce et entre. Une jeune fille. Il y a quelqu'un ? Regarde autour d'elle, un peu intimidée, et voit sur le lit un jeune homme. Elle s'approche tout doucement, hésitante. Monsieur, monsieur, se penche et voit son visage pâle, sans connaissance, et les deux bras entaillés. Le sang qui coule sur le parquet est forme de plaques rouges. Elle a une seconde de panique, passe sa main sur son front, zut, puis reprend ses esprits. Se penche et lui frappe le visage. Monsieur, monsieur. Il gémit. Se sent soulagée, puis pense qu'il faut arrêter l'hémorragie. Regarde autour d'elle, ne voit rien, puis pense qu'elle a un foulard et un mouchoir. Sans paniquer, avec un sang-froid, maintenant elle lui garrote les poignets, puis se lève et cherche dans la pièce quoi faire en pansement. Ah oui, la salle de bain. Elle est sortie de la pièce, puis revient. Avec une bouteille de mercurochrome, d'alcool, coton, bandage. En passant devant la chaîne, elle arrête la musique. Le blaireau n'est pas fini, ce qui fait que le temps où il s'est ouvert les veines et son arrivée n'a pas dû être très long. Pendant qu'elle lui fait son pansement, l'odeur du mercurochrome l'a ramené définitivement à la vie. Il a repris conscience. Il la voit faire, mais n'a pas envie de parler. Il voit que ses gestes sont énergiques, mais son visage reste calme. Elle est brune, les cheveux mi-longs, la peau très pâle, belle, pas vraiment, mais féminine, fragile même. Habillée d'une robe noire, toute simple, juste une broche dorée qui donne une touche de fantaisie à la toilette. Elle est gênée car elle voit qu'il la regarde. Elle sait qu'il faut parler pour qu'il puisse avoir goût à la vie et guérir de son mal. Et pour cela, il faut qu'il parle. Et pour qu'il parle, il faut qu'elle parle. C'est ridicule d'avoir un gé ainsi. J'étais obligé de faire venir une ambulance. Il aimerait paniquer, mais est trop faible. Alors il dit faiblement, « Non, surtout pas. J'ai perdu très peu de sang. Et puis ça cicatrisera. Si je vais à l'hôpital, ma famille sera inquiète. Ça n'en vaut pas la peine. » Sans le regarder, tout en rangeant ses affaires, qui sont à ses pieds. Mais pourquoi l'avoir fait? Il hausse les épaules et se dit, je vais avoir des comptes à rendre parce que j'ai voulu mourir. Cela l'énerve. Et il dit, ça ne vous regarde pas. De quoi mêlez-vous? Et que faites-vous chez moi? Elle le regarde vexée. Je suis la fille du propriétaire. J'habite au-dessous de chez vous. Votre musique était trop forte. Les voisins se sont plaints à moi. Je suis monté vous le dire. La porte était ouverte. Alors je suis rentré. Et je vous ai vu. Vous avez de la chance que j'ai pris des cours de secourisme et que l'on m'ait dit qu'il fallait toujours aider son prochain, même s'il ne souhaitait pas. N'appellerai pas l'ambulance, ça n'en vaut pas la peine, vous encombriez le service des urgences pour si peu. Je viendrai vous soigner. Voilà, c'est fini. Elle se lève, prend les pansements. Lui, irrité sur lui et sur ce qu'elle vient de lui dire. Je dois vous dire merci. Il ne me reste plus qu'à continuer. Elle le regarde bien en face et d'une voix douce. Paradis, ça se mérite. Vous n'avez fait que de commencer à peine. Assez parlé. Je reviendrai vous voir plus tard. Et elle sort de la pièce. C'est dans la pénombre. Elle est entrée, éclaire le plafonnier, a à la main un bol fumant et une cuillère, s'approche du lit d'un pas décidé. Il a vu venir, il ne dit rien. Bonjour, vous allez mieux? Je ne suis pas malade. Je vous ai apporté de la soupe. Elle se penche vers lui, il se soulève. L'odeur de légumes cuits lui dessert un peu la gorge. Elle pose le bol sur la table de nuit. Elle lui regarde le pansement. « Bon, nous verrons tout cela demain. » Je touche le front et lui dis. « Vous êtes encore tout pâle. » Prends le bol. Et lui donne à manger. Mais, dès la première cuillère, il n'a plus faim. J'ai pas faim. Forcez-vous un peu. Il mange. C'est chaud. Il lui demande. Qui êtes-vous? Je m'appelle Blanche de Haute-Bord. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en lettres. Et vous? Il hésite un peu. Un peu de soupe coule le long de son menton. Elle l'essuie avec son mouchoir. Marc Leroy, 20 ans, étudiant philo. Elle demande, c'est bon? Je ne sais plus. C'est même comique de manger alors que l'on veut mourir. Elle regarde bien et lui dit, vous voulez toujours mourir? Je suis fatiguée. Elle l'essuie et se lève. Je vais vous laisser. Passer une bonne nuit. Lui vexé parce qu'il la trouve trop sûre de sa lâcheté. Qui vous dit que je ne vais pas recommencer? Elle le regarde droit dans les yeux et d'une façon calme. Non, parce que vous n'auriez pas dit ceci. Et puis, pour se donner la mort, il faut être ou trop fort ou trop faible. Et vous l'êtes en ce moment, ni l'un ni l'autre. Elle se penche vers lui. L'embrasse sur le front, lui touche la joue et lui dit « Comment peut-on être si mignon et avoir des idées noires ?» Lui soupire. « Être beau n'empêche pas d'avoir une âme. Si vous avez une âme, cela doit vous empêcher de faire des bêtises comme celle-ci. » Elle se redresse et sort de la pièce. La fatigue l'a endormie d'un coup, un grand trou noir sans rêve. S'est réveillé, la pièce baigne de soleil. Assis sur une chaise au milieu de la pièce, l'on frappe à la porte. Entrez, la porte est ouverte. Elle est entrée, surprise de le voir assis. Bonjour, vous vous êtes levé? Oui, elle s'approche toujours calme. Lui touche le front. Regarde les poignets. Vous allez mieux. Je vais vous faire vos pansements. Et sort de la pièce. revient, dépose sur la table le nécessaire. Le dépense et pense. Les entailles ont été faites avec une lampe propre, ce qui fait que ça cicatrise bien, car Marc aussi a un corps sain. Après lui avoir fait ce pansement, « Vous voulez un bol de lait au chocolat ? J'ai pas faim. » C'est le moral qui n'a pas faim, mais le corps, oui. Allez, il faut vous forcer un peu. Un bol de lait, ce n'est pas terrible. Elle se lève et sort de la pièce. Elle revient avec son bol fumant et le lui ferait prendre. Après avoir déposé le bol sur la table, elle lui dit « Il fait beau, si on allait marcher un peu, n'ose pas dire non, et un peu gêné de sa gentillesse. Je vous prends tout votre temps, » elle sourit. « Je vous en congé. Allez, sortons, ça nous fera du bien. » Elle veut le sortir de ce décor qui doit lui rappeler son geste, et puis un peu d'air le ravigotera. Il se lève, met sa veste et il sort. Dehors, elle voit que le bruit de la ville le fatigue un peu. Alors, elle le mène dans un parc. Là, il marche dans les allées, c'est l'hiver, le ciel est bleu, l'air est sec et froid, l'herbe est gelée mais reste malgré tout verte. Des petits moineaux sur le sentier qui picorent des petites miettes de pain, elle les lui montre et lui dit « Voyez comme ils sont merveilleux, pleins de vie. » Il ose les épaules et lui dit « Ne vous donnez donc pas tant de mal, je n'en ai pas envie de prendre joie à goût à la vie, tout ça ne m'intéresse pas. » Il se met à marcher à grande enjambée, elle le suit comme elle peut. Il en a assez de douceur, il est sorti c'était pour se détendre. Et non pour avoir un discours prêchi-prêcha sur les joies simples de la vie. Il continue à marcher en courant. Arrivé vers son immeuble, il entre. Il monte les escaliers, elle le suit. Entre chez lui. Il sait qu'elle est derrière lui. Sans se retourner, lui fermer la porte, il va dans la salle commune s'asseoir sur une chaise. Soupir. Et la voix arriver tout essoufflée. Cela l'agace. Vous allez me surveiller longtemps comme ça ? Ne craignez rien, je ne recommencerai pas. Pas pour le moment, en tout cas. Elle se sent stupide. Elle agit comme une imbécile. Au lieu de lui faire une leçon sur la joie de vivre, elle aurait mieux fait de le laisser se promener tranquillement et d'attendre qu'il veuille parler. Elle s'approche de lui. Et lui sourit. Je ne crains rien. Je peux simplement vous aider. Vous jouez aux bonnes sœurs ? Non ? Simplement aux bonnes chrétiennes ? Tiens, il manquait plus que ça ! Elle s'assoit à côté de lui. Elle lui dit : Pourquoi Vous avez quelque chose à nous reprocher? Non, pas spécialement à eux, mais à lui, qui vous illusionne sur la vie, le monde. Que connaissez-vous du monde? Tout d'un coup, il se sent oppressé, fatigué. Et puis ses questions. Et vous? Laissez-moi tranquille. Je suis fatigué. Bien, je vais vous laisser. Si vous avez besoin de quelque chose, il se lève morose. Et lui crie, je vous dis de me laisser tranquille. Vous me fatiguez. Je ne veux plus vous voir. Fichez-moi le camp. Il lui montre la porte. Elle se lève calmement et sort de la pièce. Il se rassoit. Il sonne à une porte. Elle lui a ouvert. Je suis venu m'excuser. J'ai été odieux. C'est pas grave, je comprends. Vous voulez manger? Il baisse ses yeux confus. Non. Plus tard, j'aimerais sortir un peu. Bien, je m'habille et nous y allons. Ils sont retournés dans le parc. Ils marchent doucement, sans rien se dire. Elle ne veut pas le brusquer. Puis, il se sent un peu là. Alors, ils vont s'asseoir sur un banc. Elle s'est mise à côté de lui. Vous allez mieux? Lui, calmement. J'ai jamais été mal. Je suis lucide. Trop lucide. Qu'est-ce que vous appelez par lucidité? Voir le monde tel qu'il est. Il voit les petits moineaux picorer et cela lui rappelle qu'il doit être bon et poli. Et il est comment le monde? Invivable. S'il était invivable, il n'y aurait pas de millions d'êtres qui y vivent. Vous appelez ça vivre, vous? Oui, même si c'est mal, je crois en l'avenir. L'avenir, c'est la mort. Oui, l'avenir, c'est aussi la mort. Mais la mort du cœur, pas celle de l'âme. Belle herbe que tout cela. Rentrons. Et il s'en retourne. Il passe devant un banc où se trouvent deux clochards. Ils sont tous deux assis dans la pièce commune sur des chaises. Dehors, il fait nuit. Seule la lampe de chevet vers le lit est éclaire. On entend le bruit de la pluie. Pourquoi perdre votre temps à m'aider? Parce qu'un suicide, c'est un appel au secours. Moi? J'ai appelé au secours ? Oui, inconsciemment, sans vous en rendre compte, en mettant la musique trop fort, vous avez fait venir quelqu'un près de vous. C'est de la littérature tout ça. Non, c'est un réflexe de conservation. Votre geste voulait montrer votre détresse pour que l'on vienne vous aider. Et vous êtes venu. Oui, et c'est pour cela que je veux connaître votre peine. Il baisse la tête, n'a jamais dit son histoire, mais se la raconte tous les jours. À quoi bon ? Est-ce si difficile que cela de raconter ce qui vous est arrivé ? Vous ne pouvez pas comprendre. Essayez tout de même. Il se lève, marche jusque vers la fenêtre. Regarde dehors et dit : vous ne pouvez pas comprendre, et même si vous comprenez, cela ne changera rien à l'affaire. Il se retourne et lui dit : je ne peux et ne veux avoir le goût de vivre. Elle se lève et s'approche de lui. Émue, elle met sa tête sur sa poitrine. Elle lui dit : parlez-moi, si cela vous donne pas envie de vivre, cela vous soulagera. Lève la tête, il a besoin d'être guidé pour vivre. Non, pas pour vivre, mais pour se détendre. Alors elle le conduit, main dans la main, vers le lit. S'est assise près du lit. Elle le regarde. Elle regarde le plafond. Soupire. Et parle. Au début, les mots viennent difficilement. Puis, il se détend et parle plus librement. Cela lui fait du bien. J'étais comme tout le monde, insouciant. Je voulais vivre à mille à l'heure, ne t'occupant pas d'avenir. Je passais la plupart de mon temps à m'amuser, sortant beaucoup, allant d'une fille à l'autre. J'adorais draguer. Et puis, un jour, j'ai rencontré Irène. Oh, tout à fait au hasard. En sortant, elle m'a souri et j'ai dragué comme les autres. Mais je me suis tout de suite rendu compte qu'elle n'était pas comme les autres. Plus sérieuse, plus douce. Malgré moi, j'étais pris à mon propre jeu, je me suis mis à l'aimer. Comme elle vivait seule avec son grand-père et qu'elle n'avait pas de connaissances, je l'invitais souvent. Nous allions au cinéma, danser, au restaurant, où nous marchions tout simplement. Je suis fils unique et mes parents me donnent une bonne pension. Mon père est directeur de banque. Mon amour pour elle était pur. Oui, était pur. Je ne désirais rien d'elle. Et un baiser représentait l'acte suprême. J'avais bien pour changer. Je ne sortais plus qu'avec elle. Au fur et à mesure que je la connaissais, je m'apercevais qu'elle était bonne et douce, aimable, sérieuse. Et moi aussi, j'étais prêt à le devenir. La vie avec elle était quelque chose de pur, de simple. Oh, de simple. On se voyait souvent. Et voyait qu'elle avait aussi les mêmes sentiments pour moi. Je lui ai déclaré mon amour. C'était en la ramenant chez elle, un soir après le cinéma. J'étais très excité et ému. Il fallait absolument que je lui parle. Mais ma gorge était serrée. Elle me regardait. Nous marchions l'un côté de l'autre, la main dans la main. Elle ne voulait pas me parler, car sentait une tension chez moi. Je m'entrais dans son allée. L'allée était très sombre, malgré la lumière. Et là, en une seconde, le vide dans la tête, alors je lui ai pris la main que j'avais lâchée et lui ai dit, sans vraiment la regarder, « Je vous aime, Irène. Je vous aime. Je vous aime. » Elle a baissé les yeux. Son visage s'est empourpré et m'a dit timidement, « Moi aussi, je vous aime. » Alors, j'ai eu envie de vivre. J'étais tellement ému que je... Je savais que faire. Je me suis mis à rire. Je lui ai pris la main et je l'ai embrassée timidement comme un débutant. Puis, nous sommes montés la main dans la main. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa porte et nous sommes quittés sans oser nous embrasser. Puis, nous nous sommes vus souvent, souvent, souvent. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. 6 mois plus tard, nous avons décidé de vivre ensemble. Tout en poursuivant nos études, j'avais décidé de travailler dans une grande surface. Son grand-père, avec qui j'avais fait la connaissance, me promettait une petite somme pour nous aider. Car il m'avait invité chez son grand-père. Ses parents étaient morts. Et il était sa seule famille. Il me présentait un vieux monsieur tout maigre et cheveux blancs. L'appartement était... vieux, très vieil appartement qui ressemblait aux années 30, les années de la jeunesse du grand-père. Il nous a invités à déjeuner. Il nous a fait de la cuisine, vieille cuisine bourguignonne. Puis, nous avons bien sympathisé. J'ai massé les vieillards. Il me faisait confiance. Et puis, nous lui avons dit que nous avions décidé de nous marier une fois nos études finies. Tout était prêt pour qu'elle vienne vivre ici avec moi. Nous étions très heureux. Il faisait des projets d'aménagement de l'appartement et de notre vie commune. Un soir, que je rentrais seul chez moi, j'étais particulièrement heureux. Je m'assis sur un banc, un clochard s'assit à côté. Il me regardait d'un drôle d'air et me dit
« Voilà quel air heureux. Ça lui passera. La vie t'apprendra à vivre, mon petit gars. »
« C'est à moi que vous parlez ?»
Il me regarda d'un air, d'un drôle d'air.
« Bien sûr que c'est à toi. À qui veux-tu que ce soit ? Je te dis, moi, que le bonheur n'existe pas sur cette terre. La vie t'apprendra à vivre. On croit que l'on peut être heureux et tout d'un coup, paf, la vie te rappelle à l'ordre. En t'enlevant tes illusions, en détruisant d'un coup ton petit bonheur bien à toi. Et puis, de toute façon, être heureux dans ce monde, c'est impossible. Faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas voir ce qui nous entoure. Tu me diras, c'est ce que font les gens, puisqu'ils continuent à vivre.
J'étais troublé, mais je ne dis rien. Il me levait, et lui aussi, je me mis en route, il me suivit. J'étais sorti du jardin, il m'avait toujours suivi. Rattrapé, puis me montre la foule, il me dit, en me tenant par la manche,
« Regarde-moi tous ces gens, ont-ils l'air heureux ? Hein ? Hein ? Non ? Ils vont droit devant eux, sans se poser de questions, car ils ont trop peur de voir le monde tel qu'il est. Hein ? Ils ont tous sur eux les marques de la maladie, vieillesse, désillusion. Ils vont droit devant eux. Leur but, ils se le cachent. C'est la mort. Il faudrait mieux se la donner, la mort, plutôt que de continuer à souffrir. »
Il m'agaçait et lui disait « Et vous, pourquoi ne vous tuez pas ?»«
C'est ce que j'ai décidé de faire, mon petit gars. Pas plus tard que ce soir. J'ai déjà suffisamment perdu d'années comme ça. J'aurais dû le faire avant. Ça m'aurait évité beaucoup de souffrance. Et toi ? Quand tu auras perdu ton bonheur, que feras-tu ?
Moi ?
Oui, toi.
Je le regardais, et d'un geste, faisais lâcher mon bras et me sauver en courant. Malgré moi, j'étais troublé. Mais à quoi cela sert-il de courir alors que le malheur vous rattrape toujours ? Il est toujours à l'arrivée. Une semaine plus tard, mon bonheur s'effondrait. Irène est morte à cause d'un chauffard. J'ai erré plusieurs jours comme un fou. Je cherchais à oublier, à m'enivrer par l'alcool et la drogue. J'allais dans des quartiers sordides pour en trouver. Mais cela ne m'empêchait pas de voir le monde tel qu'il était. J'avais dans la tête les phrases du clochard. Je me disais qu'il avait raison, que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Je voyais les gens comme des imbéciles continuer à vivre, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai décidé que la meilleure solution pour moi, c'était d'en finir. La pluie continue à tomber. Voilà, je suis toujours là. Et je continue à penser que la vie ne vaut pas la peine, qu'elle ne vaut rien, et que celui qui a créé ce monde est un figuier, fumier. Tout n'est qu'illusion dans ce monde.
De la fumée pour cacher le malheur.
Il la regarde, elle ferme les yeux et les rouvre. Ce n'est pas parce que vous avez eu un grand malheur qu'il faut désespérer. Si Dieu vous a donné cette peine, c'est qu'il a ses raisons. Il n'y a pas de douleur sans rédemption. Au lieu de vous enfermer dans vos peines, de vous replier sur vous-même comme un égoïste, vous devriez ouvrir votre cœur pour entendre ce que dit. Révèle votre souffrance. Dieu vous a donné une épreuve pour que vous puissiez devenir plus fort et aller vers un but qu'il vous a assigné. Si vous ne savez lire ce que dit votre cœur, vous ne saurez jamais ce qu'il vous a assigné. Tandis que si vous savez lire ce que dit votre cœur, vous serez sauvé. Il la regarde et hausse ses épaules. Il n'y a aucun bruit que celui de la pluie. Bel hiver que tout cela. Ce sont des histoires que pour que les gens puissent s'enivrer. Si Dieu existait, il serait plus généreux avec les hommes. Pourquoi l'on dit qu'il est si bon puisqu'il nous envoie du mal? S'il existe, et puis, pourquoi m'a-t-il enlevé Irène? Que lui a-t-elle fait? Elle était douce, bonne. La voix du Seigneur sont impénétrables. Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi Dieu a rappelé Irène? Il l'a peut-être faite pour vous. Il est irrité, la regarde dédaigneusement. Pour moi? S'il voulait me rendre heureux, il aurait agi autrement. C'est parlé ce soir. Et puis, je ne veux plus entendre ces histoires de bondieuserie. Je n'ai pas peiné par ce qu'il vient de dire. Oui. Je vais vous laisser. Vous devez être fatigué. Elle se lève et sort. Il ne l'a pas raccompagnée. Il sait qu'elle poussera la porte d'entrée. Lui, il soupire et cherche à trouver le repos puisqu'il est en vie. Matin, il est au lit dans sa chambre. On sonne à sa porte. Il se lève pour aller ouvrir. Il est en slip. C'est elle. Et il est agacé, car il aimerait réfléchir en paix. Que venez-vous vous faire? Le catéchisme? Laissez-moi tranquille. Vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir comme je souffre. Allez-vous-en. Vos mots, vos grandes phrases insolentes ne m'intéressent pas. Et lui ferme la porte au nez. Il retourne s'asseoir sur une chaise. Quelques jours plus tard, il la croise dans la rue, près de son immeuble. Elle porte sur sa robe un manteau tout simple noir. Elle a le sourire en le voyant. Bonjour, vous allez bien? Il est gêné de cette rencontre. Il le faut. Elle voit qu'il porte un porte-document. Vous reprenez vos cours? Il faut bien faire quelque chose. Et vous, J'étais obligé d'arrêter. Ah, cela vous a peiné?
Non, et puis j'ai d'autres occupations.
Vous avez trouvé du travail?
J'aide les personnes âgées, je fais leurs courses, prépare à manger, le ménage, la lecture.
Tenez, si vous avez un peu de temps, je vais au marché à côté. Vous m'aiderez à porter les paquets?
Ils osent les épaules et ils y vont.
L'ambiance du marché lui rappelle sa jeunesse. Le dimanche matin après la messe, il y allait avec sa mère pour l'aider à porter les cabas.
Il se souvient de l'odeur et du côté bon enfant des gens. Il suit blanche dans la foule et semble fraîche et fragile comme sa mère. Comme sa mère.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Lumière, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.